Chapitre 3. Puisque son projet de messe commémorative n'obtenait pas l'approbation désirée de la part de ses sœurs, Jacquelin avisa son bedeau de transmettre la nouvelle de son annulation à tous ceux à qui il s'était confié.
« Vous aviez juste à rester muet, comme je vous l'avais demandé, Gédéon. »
rugit le curé, quand l'homme trapu marmonna que plusieurs villageois attendaient cette cérémonie avec impatience. Évidemment, Simone fut bien satisfaite de constater que son frère avait abandonné cette idée farfelue pour célébrer la mémoire des lois. Cette décision était la seule possible.
« J'ai pas besoin d'entendre des chants à l'église pour penser à mon garçon. »
songea la femme en espérant le sujet clos pour toujours. Au début du mois de juin, Omer Veillette, le mari de Géraldine, avait annoncé à sa femme qu'il ne trouvait pas de barge pour la saison.
« Comment ça, pas de barge? »
avait questionné la femme en grimaçant. Son corps souffrait de cette sixième grossesse. Elle espérait avoir enfin une fille puisque ses cinq premiers enfants étaient des garçons. Advenant le cas de la naissance d'un autre fils, Géraldine avait décidé d'empêcher la famille, avec ou sans l'accord de son mari. Omer avait traîné ses pieds sur le plancher de bois autour de la table de cuisine. Il avait tenté de trouver la meilleure façon d'aviser Géraldine que plus un pêcheur ne voulait le prendre comme second. Quand Martial, âgé de 3 ans, avait fait sourire sa mère en faisant semblant de dormir, l'homme au visage grêlé avait cru que le moment était adéquat. Mais il n'avait pas prévu la rage qui était apparue sur les traits de sa femme. Géraldine avait lancé sa guenille humide sur le comptoir de bois derrière elle et avait croisé ses bras costauds sur son ventre proéminent. Omer avait pris un air piteux.
« C'est pas de ma faute, » avait-il larmoyé. « Thibault m'avait promis le poste de second. »«
C'est ça que tu m'avais dit? »
Il a décidé à la dernière minute que je faisais pas l'affaire, »
avait menti Omer sans regarder sa femme directement. En fait, quand Omer avait avisé Bourbeau-Marcellet, dit Thibault, qu'il ne pouvait pas faire plus de 10 heures par jour sur un bateau à cause de sa santé fragile, le mari de Lucienne avait aussitôt réagi.
« On va laisser faire ça, Omer », avait ragé le maigrichon nerveux. « Il y a toujours bien des limites à rendre service. J'ai promis à mon cousin de te donner un coup de main, mais si tu veux pas t'aider, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. »
Alors que n'importe quel homme serait revenu sur ses paroles et aurait promis de travailler de l'aube jusqu'à la nuit, Omer Veillette, lui, avait juste haussé les épaules. Il préférait rester à terre plutôt que de passer ses journées à s'éreinter sur l'eau. Mais pas question d'avouer cela à Géraldine. Sa femme, la couette blonde à moitié défaite, l'avait fixée d'un air agressif.
« Veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'il a changé d'idée? » « Je me suis humiliée à demander à Cléophas Langevin de vérifier auprès de son cousin Thibault s'il ne donnerait pas une chance cet été. Quand j'ai vu Lucienne il y a 3 jours au magasin, elle m'a pourtant dit « Comme ça, nos maris vont pêcher ensemble cet été. » Puis là, tu m'arrives avec cette nouvelle. C'est toujours comme ça avec toi, hein? Pas fiable pour 2 cents. »
Depuis cette annonce, Omer se promenait donc sur la grave quelques heures par jour, assistant les autres terriens qui débordaient d'ouvrage. Il récoltait ainsi quelques dollars par semaine qu'il s'empressait de remettre à Géraldine, tout en conservant assez d'argent pour une virée à l'auberge de Percé le samedi soir. Et puis, juillet se pointa le bout du nez, la température allant à la joie atteignit des sommets jamais égalés. Avant l'aube, souvent sous les étoiles lumineuses, les pêcheurs s'empressaient de filer sur la mer en profitant d'une brise fort appréciée. Malgré la fatigue et les douleurs permanentes, les hommes ne se plaignaient à peu près jamais. Pourtant, quand le soleil montait bien haut dans le ciel sans nuages, tous souffraient de la chaleur. Mais les pêcheurs s'échinaient heure après heure avec passion, et quand ils s'allongeaient dans leur lit le soir venu, personne ne s'étonnait qu'il s'endorme à peine la tête sur l'oreiller. La famille Veillette se trouvait parmi les moins nantis, n'ayant ni vigneau, ni barge, ni agrès de pêche. Épuisée par ses disputes fréquentes avec son mari, Géraldine tentait encore une fois de le persuader d'aller se faire engager par la Robin, un samedi matin après leur déjeuner.
« Au moins, ce sera un salaire régulier, Omer. On aura bientôt 8 bouches à nourrir. » « Tu sais bien que j'ai pas la santé pour de longues journées au soleil. Lâche-moi avec ça. Tu peux convaincre les autres villageois, mais... »
C'est le moment que choisit Gustave, qui avait eu 9 ans 3 jours auparavant, pour entrer en courant dans la maison avec ses souliers couverts de boue.
« Papa, viens voir ma cabane au fond du... »
Le gamin n'eut pas le temps de terminer sa phrase que sa mère l'empoignait par le bras pour le sortir sur le balcon.
« Innocent! Regarde mon plancher!
Je veux juste parler à papa! » répliqua le garçon sans se préoccuper de la colère de sa mère.
Mais Géraldine en avait assez de cette vie à servir tout le monde, à quêter de la farine, sous les regards inquisiteurs des autres villageois. Elle était lasse de ce garçon agité, turbulent et toujours prêt à faire des mauvais coups. Même si elle ne l'avouait pas, cet enfant qui ressemblait physiquement à son mari jeune, Géraldine avait de la difficulté à l'endurer. Déjà que la femme blonde n'était pas une mère affectueuse, elle constatait que celui-là l'agaçait de plus en plus. Le visage fermé devant le corps de sa mère, qui l'empêchait de voir son père par la porte, Gustave la poussa dans le ventre.
« Aïe aïe, Gustave, je veux voir papa !» cria l'enfant. « Je vais t'en faire, moi !»
Mais Gustave n'avait pas dit son dernier mot malgré l'air mauvais de Géraldine. Il voulut contourner la femme costaude, mais celle-ci l'agrippa par le bras pour le repousser. Il tomba en bas du balcon sur les genoux et aussitôt se mit à hurler. Enragée par cette matinée pire que les autres, sa mère l'ignora et entra en trombe dans la maison à l'allure négligée. Elle se planta devant un maire qui s'était assis sur une chaise, épuisé par une courte nuit, et cracha « Écoute-moi bien, toi, mon incapable. J'ai 5 enfants à nourrir et plus une scène pour le faire. Là, tu vas aller te trouver une job, mais dis-moi pas que tu files pas ou que t'as mal ici et là. T'avais juste à pas te cacher dans la cabane pour boire hier soir. Ça fait que soit tu te fais embaucher par la Robin, soit tu t'arranges pour que Gaston rallonge notre crédit, mais reviens pas ici tant qu'une de ces deux conditions n'est pas remplie, c'est clair? »
Géraldine descendit Auguste de sa chaise de bois, empoigna Martial pour aller le changer et apostropha Gustave pour qu'il cesse de crier.
« Arrête de broyer comme une fille grand niaiseux! »
cria-t-elle par la petite fenêtre à côté de la porte de la maison.
« Puis retourne donc chez Simone, comme ça je vais avoir la paix pour la journée. »
Ses deux plus jeunes dans les bras, elle ignora le geste de la main de son mari, qui n'avait pas du tout envie d'opter pour une des deux solutions que Géraldine lui avait proposées.
« Je suis toujours bien pas pour me laisser mener de même par ma femme »,
marmonna l'homme en frottant sa chevelure foncée et en s'éclipsant par la porte de côté pour aller vérifier son stock de boissons caché derrière la vieille cabane de bois gris. Il jeta à peine un regard à son garçon Gustave, qui avait les genoux en sang, et qui se résolut à suivre la consigne de sa mère.
« Je vais demander à ma tante Simone si je peux manger avec eux autres. Tant pis pour maman, je l'aiderai pas à rentrer du bois »,
décida le gamin en s'éloignant, les jambes un peu pliées à cause de la douleur. Il dépassa son jumeau François, qui lisait un livre assis par terre avec Félix Edmond, leur frère de 5 ans.
« Tu t'en vas où, Gustave ?»
demanda celui-ci en essuyant son nez avec le revers de sa main sale.
« Pas de tes affaires !»
répliqua son aîné sans s'apercevoir du regard triste de son jumeau. Un problème de prononciation empêchait François de communiquer clairement avec les gens, et plutôt que de risquer de faire rire de lui, l'enfant laissait Gustave prendre les devants dans la plupart des situations.
« François est pas plus dérangeant qu'un chaton !»
avait coutume de dire Géraldine, bien satisfaite d'avoir au moins un enfant de ce genre. Le garçonnet ne disait jamais un mot, évitant ainsi les moqueries des autres enfants. Quand on ridiculisait la façon de parler de François, son jumeau s'empressait de prendre sa défense, avec ses poings s'il le fallait. Son frère aurait aimé faire preuve du même courage pour tenir tête à leur mère, afin qu'elle cesse de disputer Gustave. Mais il savait bien qu'il n'en ferait rien. Alors il reporta son attention sur le livre en balbutiant sous le regard sérieux de Félix Edmond « Avec son
père
Simone se hâtait d'habiller Béatrice quand un bruit assourdi la fit arrêter de boutonner la barboteuse de sa fillette. Elle tendit l'oreille hésitante.
« T'as entendu quelque chose, Béa ? »
demanda-t-elle. La fillette prononça quelques mots en réponse à la question de sa mère, plus intéressée par une image de la Vierge collée sur le mur près du bureau. Couchée sur le lit, la gamine aux grands yeux bruns comme son frère défunt attendit patiemment que sa mère finisse de la vêtir. Depuis quelques semaines, le caractère de Béatrice s'était adouci.
Les mois qui avaient suivi la mort d'Éloi avaient été très éprouvants pour Simone, qui avait vu sa patience s'amoindrir alors que son bébé quémandait son attention. Toutefois, depuis le début du printemps, la maison avait résonné de moments joyeux, entre les bonnes notes obtenues par Philomène à l'école et le début de la saison de la pêche. Si l'absence de son garçon l'affligeait encore, Simone réalisait que la vie continuait et qu'elle arrivait même à sourire de nouveau. Elle fit une légère grimace à Béatrice avant d'ajouter « J'ai dû me tromper. Ça doit être le vent qui me joue des tours. » Simone se surprenait souvent à parler seule, n'ayant plus accès à sa confidente. Si Géraldine avait temporairement remplacé Madeleine après la tragédie, Simone s'apercevait bien que cette relation était loin de la combler autant. Elle termina d'attacher le vêtement de l'enfant et la déposa sur le sol. Puis elle se pencha pour ramasser les vêtements de nuit de ses filles en fronçant les sourcils. « Philomène est bien trop traîneuse. Il va falloir que je la chicane si elle continue à mettre son linge par terre. En plus, elle a fait son lit en vitesse ce matin avant de partir à la grave avec Horace. Non, ça ne marchera pas comme ça. Elle a 8 ans, il faut qu'elle fasse sa part. » Après un dernier coup d'œil dans la chambre des filles, Simone sortit de la pièce pour retourner à la cuisine. Elle devait préparer les légumes pour le souper, vérifier la quantité de glace dans la glacière et laver la vaisselle du déjeuner. En passant près de l'armoire dans le corridor, elle ouvrit pour sortir son balai. Béatrice et Philomène mangeaient chaque matin en laissant tomber une quantité non négligeable de miettes sur le plancher. Perdue dans ses pensées, la femme sursauta en entendant une petite voix murmurer « Je pourrais manger un morceau de pain, ma tante Simone. »«
Gustave, qu'est-ce que tu fais ici ?»
répliqua Simone en regardant le fils de son ami assis sagement sur une chaise de cuisine. Le gamin fit la moue et expliqua la dispute qui était survenue avec sa mère. Simone soupira en se disant que l'humeur de Géraldine ne s'améliorait vraiment pas. Elle fixa les petites joues sales de Gustave et les lignes noires de crasse dans son cou. Elle se demanda quand il s'était lavé pour la dernière fois. Même si l'été, les enfants passaient beaucoup de temps dans la mer, il n'en demeurait pas moins qu'il fallait les savonner au moins une fois par semaine. Jetant un regard sur Béatrice qui avait retrouvé sa vieille poupée de chiffon derrière le sofa, Simone s'avança pour couper une tranche de pain et l'offrir au garçon avec une bonne couche de beurre. Il faudrait clarifier la situation avec son amie, d'urgence. Elle peut pas laisser ses enfants courir le village à la recherche de nourriture, hein, pensa Simone en regrettant un bref instant de ne pouvoir consulter sa jumelle. Songeuse, la femme laissa son regard fuir par la fenêtre en direction de la mer. Madeleine avait toujours été de bons conseils, et Simone réalisait qu'à part ses filles, elle n'avait plus guère personne pour l'écouter. Tom revenait éreinté de la pêche, et elle se voyait mal se confier à son beau-père. Soupirant bruyamment, Simone se déplaça dans le salon pour ramasser les traîneries. Quand Gustave eut fini de manger, que la vaisselle fut lavée et la pièce balayée, la jumelle mit enfin le cap sur la grave. « Là, mon Gustave, tu vas venir avec moi. » T'as besoin de te tenir tranquille autour des vigneaux. Je vais pouvoir vous aider? » Le garçonnet leva un regard plein d'espoir vers Simone, qui retint un léger sourire. Aussi bien le mettre à l'œuvre tout de suite pour éviter qu'il ne devienne un bon à rien comme son père. Ce gamin caractériel lui chavirait le cœur, lui rappelait que son Éloi n'aurait jamais 5, 6 ou 7 ans. Elle aurait envie de crier à Géraldine la chance qu'elle avait d'avoir de si beaux enfants, vivants. Simone acquiesça donc à la demande de Gustave en lui faisant promettre de bien écouter les règles et les consignes. « Promis. De toute manière, je suis presque un homme. Ça va être facile de vous aider. »«
J'ai des nouvelles pour toi, mon gars. Tu vas voir que c'est pénible habiller la morue toute une journée. »«
Bouf. Si Philomène est capable, moi aussi. Je suis bien plus fort qu'une fille. »«
Ouais, ouais, on verra ça.
Bon, allez, grouille. »
Depuis le début de la saison, Simone se rendait sur la plage du village dès son ouvrage matinal terminé. Elle avait décidé de ne plus priver son mari de son aide. « Je suis capable de m'occuper de nos affaires sans côtoyer ma sœur. T'inquiète pas pour moi. Ton père peut pas tout faire seul. Philo aussi va participer. Cet été, Tom, on va être au vigneau tous les jours.
T'es sûr de ça? »
s'était informé son époux incertain. « Je pourrais engager quelqu'un, moi aussi. » Simone avait refusé. Pas question de se priver de l'argent pour l'offrir à un étranger. Il ne possédait pas de terre qu'il pouvait louer comme Madeleine et Freddy. Il lui fallait participer activement, comme avant, à la préparation des morues salées. Si son beau-père s'occupait généralement du tranchage, Philomène et Simone devaient saler, empiler et transporter les poissons jusqu'aux vigneaux. La plupart du temps, les jumelles s'évitaient judicieusement. Comme elles connaissaient l'horaire de Simone, Madeleine descendait toujours à la plage de l'Anse-à-la-Joie avant elle et repartait vers la fin de l'après-midi. Ainsi, elles se croisaient rarement en chemin. Cependant, ce matin, Arthur avait mis plus de temps à se réveiller et sa mère avait pris du retard. Madeleine sortit de la maison quelques minutes seulement avant sa jumelle. « À plus tard, grand-mère !» cria la femme en lui rappelant qu'elle reviendrait pour le dîner. La porte à peine refermée, Madeleine s'empressa de déposer son fils dans son carrosse et entreprit sa descente vers la grave en vitesse. Elle craignait que son retard n'occasionne une rencontre fortuite entre Simone et elle sur le chemin. Peu importe le moment, Madeleine considérait que c'était elle qui devait fournir tous les sacrifices et déployer les efforts pour éviter de troubler Simone. Sa sœur ne voulait pas la voir, alors elle respecterait cette décision, même si cela lui brisait le cœur. Comme de fait, quand elle tourna sur la côte du Sureau, Madeleine aperçut la silhouette de sa jumelle un peu plus bas, près du chemin principal. Son retard aurait donc des conséquences. Ah, zut! La jeune mère diminua sa cadence et prit même une pause dans sa descente. Elle fixait avidement le dos de sa sœur qui gesticulait auprès d'un petit garçon tout en surveillant la démarche incertaine de Béatrice.
« C'est qui ce petit-là? »
marmonna Madeleine en mettant la main en visière au-dessus de ses yeux avant de reconnaître Gustave Veillette. Le regard rivé sur sa jumelle, Madeleine scrutait attentivement ses gestes, la main gauche qui dansait en l'air lorsqu'elle expliquait quelque chose, la tête de Simone qui penchait un peu sur le côté pour mieux entendre ce que disait le garçon de Géraldine, ses hanches généreuses qui valsaient légèrement lorsqu'elle marchait ou se penchait pour agripper Béatrice afin d'éviter qu'elle ne trébuche. Au bout d'un moment, malgré elle, Madeleine reprit sa descente en souriant affectueusement à Arthur, qui la regardait avec ses grands yeux bleus. La femme se pencha pour replacer le chapeau de l'enfant sur son crâne couvert de petits cheveux blonds.
« Maman veut pas que t'attrapes un coup de soleil? Ah! Eh bien, je pense que ton frère ou ta sœur vient de se réveiller. J'ai l'impression d'avoir un petit poisson dans le ventre. »
Madeleine inspira en se disant que sa vie serait presque parfaite, n'eût été ce drame terrible qui pesait sur sa conscience et qui avait creusé un fossé entre sa sœur et elle. Pour la première fois depuis un bon bout de temps, la femme se dit qu'une nouvelle tentative de rapprochement pourrait peut-être être envisageable. Sans même réfléchir, elle accéléra donc le pas, et en moins de quelques minutes, elle se retrouva une dizaine de pieds derrière Simone. Comme un animal flairant sa proie, Madeleine leva la tête pour humer l'odeur de sa jumelle. Elle ferma les yeux en imaginant ce drôle de parfum citronné dont Simone aspergeait parfois son cou. Un mélange d'agrumes et de cannelle qu'elle fabriquait depuis l'adolescence et qui ne convenait qu'à elle. Dieu que sa sœur lui manquait. Avant de changer d'idée, Madeleine chuchota « Simone ?» Sa voix était si faible que sa sœur, occupée à écouter le garçon à ses côtés, ne l'entendit pas. Inspirant profondément pour se donner du courage, Madeleine répéta plus fort « Simone ?»«
Quoi ?»«
Ah, oh, c'est toi. »
« Bon, vite, Gustave. Simone, je t'en prie, accorde-moi une minute. »
Sur le visage de cette dernière, la souffrance se mêla à l'envie de s'arrêter. Simone mordit sa lèvre supérieure pour l'empêcher de trembler, et sa respiration s'accéléra. Gustave, immobile à ses côtés, posa drôlement ses mains sur ses hanches et s'exclama « C'est toi, la sœur pas fine, hein? On t'aime pas, nous autres, Gustave! » réprimanda Simone avant de songer tout de même que Madeleine méritait bien cette épithète. Elle retint Béatrice par la main et attendit Madeleine qui poussa le carrosse d'Arthur jusqu'à leur hauteur, le cœur rempli d'espoir. Au moins, Simone n'était pas partie en courant. Elle était encore plus contente de constater que Géraldine n'était pas en vue. Celle-ci ferait tout pour conserver son emprise sur sa jumelle. Tentant d'arrondir un peu les épaules pour éviter de projeter son ventre vers l'avant, Madeleine essaya de capter le regard fuyant de Simone. Cette dernière tentait de toutes ses forces de ne pas regarder en direction de son neveu. Mais ce fut plus fort qu'elle. Depuis qu'elle avait pris Arthur dans ses bras au mois de mai et qu'elle avait humé son odeur l'espace de quelques secondes, Simone se demandait comment elle ferait pour ne jamais le connaître. Quand le bébé leva ses yeux clairs vers cette femme qui ressemblait à sa mère, Simone laissa échapper une plainte. « Oh, Simone, je t'en prie, parle-moi », supplia Madeleine en étirant le bras pour toucher sa sœur. Mais Simone ne pouvait rien faire d'autre que de secouer sa tête aux cheveux encore plus courts qu'à l'hiver. Ses yeux noisettes se posèrent presque à contre-cœur sur l'enfant de sa sœur et sans même le réaliser, elle laissa échapper « Il ressemble à Philomène quand elle était bébé. » Puis elle prit Béatrice dans ses bras et agrippa la main de Gustave pour reprendre sa route en vitesse. Afin d'éviter de pleurer et d'inquiéter le petit garçon, Simone regarda au loin dans la baie en s'informant vaguement. « Peux-tu voir la barge de Tom, mon gars? »«
Bien non, j'ai pas des yeux magiques, moi. Elle est orange, » insista Simone. « Je sais, maman a dit qu'elle a jamais vu un bateau aussi laid. »
Simone sourit à cette réplique spontanée et sentit pour la première fois qu'elle pourrait peut-être un jour pardonner à Madeleine. Mais pour Tom, ce serait une autre histoire. Derrière le trio qui la devançait sur le chemin de Gaspé, Madeleine, quant à elle, riait toute seule tellement elle était heureuse de cette minuscule brèche créée dans la carapace de Simone. « Tu vas voir, mon Arthur. Ma tante Simone va revenir dans notre vie un bon jour. Je te promets ça. »